Vous êtes sur RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 17 août, à la une, ce gigantesque incendie dans le Var. 7000 personnes ont dû être évacuées cette nuit et ce midi, 900 pompiers sont toujours sur le pont. Le feu qui a ravagé 3500 hectares semble circonscrit, mais toujours pas maîtrisé. Les secours sont d'ailleurs très inquiets pour les prochaines heures. Nous irons sur place dans un tout petit instant. Dans ce journal également, l'Afghanistan et les premières évacuations des Français bloqués sur place. 45 personnes sont attendues cet après-midi à Roissy. On parlera aussi rentrée scolaire, alors que l'ARS est versée aujourd'hui aux familles les plus modestes. Plusieurs associations s'inquiètent du coût de cette rentrée. C'est d'ailleurs notre question du jour. Fourniture scolaire, en demande-t-on trop aux familles? Vous dites oui à 48%. On attend vos appels au 3210. Vous aurez, bien sûr, comme chaque jour, la parole. Ce sera dès 13h. La météo. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
Et c'est toujours bien gris et bien frais, sauf bien sûr dans le sud-est.
Exactement. Donc des conditions vraiment très nuageuses, principalement au nord de la Loire, avec en prime quelques petites averses qui pourraient se développer vers les Hauts-de-France et la Lorraine. Un ciel assez couvert aussi en direction des Pyrénées. Partout ailleurs, un partage plus équitable entre éclaircies, passages nuageux. Le soleil résiste dans le sud-est, mais au prix d'un vent très fort, 70 km/h, donc des facteurs déclencheurs pour les incendies. Les températures maximales seront comprises cet après-midi entre 21 et 25 degrés en général, plus frais près de la Manche jusqu'à 20 degrés, et bien évidemment encore beaucoup plus chaud dans le sud-est, malgré la fin de la canicule, jusqu'à 32 degrés.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc direction le Var, toujours en proie aux flammes. 900 pompiers et 4 canadaires sont encore sur le pont à l'heure où on se parle pour tenter de maîtriser ce gigantesque incendie qui s'est déclaré hier soir sur la commune de Gonfaron, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Toulon. Le feu a pris à proximité d'une aire d'autoroute et s'est très vite propagé jusqu'à l'arrière-pays de Saint-Tropez. Il a parcouru à pas moins de 5000 hectares. 3500 ont déjà été détruits et ce n'est sans doute malheureusement pas terminé. Le capitaine Olivier Pecot ne cache d'ailleurs pas son inquiétude.
Le vent s'est relevé après que le soleil se soit levé, donc ce qui rend plus compliqué les opérations de maîtrise et d'extinction du sinistre. On espère tout mettre en œuvre pour que ce feu soit maîtrisé le plus rapidement possible, ce qui n'est pas le cas. Il est sous contrôle, mais il n'est pas encore maîtrisé. Il peut repartir sur certaines parties, ce qu'on appelle les points chauds, ce sont des points actifs. Nous avons plusieurs dizaines de kilomètres de lisière à traiter, ce qui est extrêmement compliqué. C'est un travail qui est fastidieux, qui prendra énormément de temps et il ne sera éteint que dans 5 à 6 jours. C'est le plus gros de cette année et c'est aussi un feu qui peut se dénoter par sa vitesse. Il est allé 4 fois plus vite que les feux traditionnellement dans ce secteur-là. C'est en cause les fortes températures liées à la canicule, le vent et l'état de sécheresse avancé de la végétation.
Le capitaine Olivier Pecot, pompier du Var, des propos recueillis pour RTL par Valentin Boisset. Alors ce midi, la préfecture du Var demande à tous ceux qui ont été évacués de ne surtout pas regagner leur domicile. Cela concerne 7000 personnes au total, des vacanciers notamment très nombreux dans la région en ce moment. Beaucoup d'ailleurs ont eu très peur cette nuit quand il a fallu quitter à la hâte les campings et autres lieux de villégiature. Écoutez.
Quand la nuit est tombée, le mistral s'est vraiment levé et là, très vite, il n'y a plus une seule visibilité. C'était vraiment une chape de fumée, il pleuvait des cendres. Hein. Donc ça s'infiltre partout, c'est la fumée, même en étant calfeutrée, ça rentre partout dans le logement. On est plusieurs centaines à avoir passé la nuit avec un sac et prêt à évacuer au cas où, mais en restant calfeutrée chez nous. C'est un exercice de patience, de se dire, voilà, bon, il est 2h du matin, il ne faut pas que je dorme, parce qu'on ne sait jamais, voilà, il ne faut pas s'endormir dans un moment comme ça. C'est vraiment juste ça qui vient à l'esprit, quoi.
Voilà le témoignage de cette jeune femme qui n'a donc pas fermé l'œil de la nuit. Témoignage recueilli pour RTL par Lucille Bess. Samia Belbachir, bonjour, on vous retrouve en direct de Gogolin. Vous êtes l'envoyée spéciale d'RTL sur place. Vous avez-vous rencontré certains justement de ces habitants vacanciers qui ont trouvé refuge dans un centre communal de Gogolin?
Oui, ils sont plus d'une centaine à avoir passé la nuit ici dans cette petite salle communale. Vous imaginez bien la scène, des matelas sur le sol, des tables alignées, des personnes qui essayent de prendre leur mal en patience en jouant aux cartes. Je suis arrivée pile au moment du déjeuner, la distribution des sandwichs pour les enfants, des enfants qui courent dans tous les sens. Et on imagine les scènes un peu de panique au moment d'évacuer ces campings, notamment les campings de L'Argentière et de Charlemagne sur les communes donc de Cogolin et de Grimaud, une nuit angoissante et une nuit aussi qui ne donne pas de réponse puisque pour le moment toutes ces personnes sont tenues de rester sur ces centres d'accueil en attendant de pouvoir potentiellement retrouver leur lieu de vacances et surtout de récupérer les affaires qu'ils ont dû laisser derrière.
Samia Belouassir en direct de Cogolin pour RTL. 7000 personnes, hein, on le rappelle, ont été évacuées. Autre image de cette nuit, c'est celle du maire de La Mole, Stéphane Gady, encerclé par les flammes. Écoutez.
Nous sommes totalement encerclés par le feu et nous n'avons aucun moyen de regagner La Mole pour le moment. Laissez les pompiers accéder aux différents lieux de secours.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
C'est vous qui vous êtes filmé cette nuit, qui avez posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci infiniment d'être en direct avec nous dans RTL Midi. D'abord, question simple, comment allez-vous ?
Mais fatigué physiquement et psychologiquement, mais on est toujours sur le pont puisqu'il faut assumer la gestion des personnes sinistrées et des personnes évacuées.
Dans l'extrait de la vidéo là, qu'on vient de diffuser, on vous voit encerclé par les flammes. Comment vous êtes retrouvé dans cette situation ?
En fait, vers 20h, j'ai été contacté téléphoniquement par une mère de famille avec une enfant et son oncle qui étaient dans une villa qui était menacée par les flammes. Donc j'ai pris la décision de faire sortir mon comité communal des feux de forêt pour aller les sécuriser. Et le temps qu'on accède au site, en fait, le feu s'est propagé de telle manière que lorsque nous sommes arrivés, on s'est retrouvés encerclés. Et donc, nous avons pu défendre cette maison contre l'incendie. Et vraiment, je rends hommage à mon comité communal des feux de forêt. Nous étions 12 sur place. Ils ont été extraordinaires. Nous sommes parvenus à maîtriser la situation. Mais nous avons vraiment eu peur parce que même les sapeurs-pompiers n'ont pas pu venir nous exfiltrer. Et donc, nous avons été contraints de laisser le feu passer au-dessus de nous.
Ce feu, on entendait l'un des capitaines des pompiers il y a quelques minutes, il a parcouru plus de 5000 hectares, il semble d'une vivacité exceptionnelle. Est-ce que vous, par le passé, vous avez déjà vécu des situations comparables ?
Alors c'est ce qu'on appelle effectivement un méta-incendie qu'on a déjà connu en 2003. Et en 2003, le méta-incendie précédent avait emprunté exactement le même itinéraire que celui qui nous occupe aujourd'hui. Donc voilà, malheureusement, l'histoire se répète.
Alors, effectivement, tout n'est pas maîtrisé à l'heure où l'on se parle. En revanche, le bilan, 3 personnes légèrement blessées. Quand on voit la force, la vigueur de ces flammes, on se dit que c'est impressionnant.
Ah, absolument, c'était à vivre, c'était incroyable. Et on avait l'impression que le feu était totalement immaîtrisable et complètement déchaîné.
Quelle est la situation à 12h38 sur votre commune, par exemple ?
Ben écoutez, je rejoins les déclarations du lieutenant, c'est-à-dire qu'en présence de méta-incendie, les 48 heures qui suivent sont absolument capitales, puisque c'est souvent le siège de reprise d'incendie, hein, dû à des tapis de braise dissimulés. Qui sont ou qui seraient attirés par un vent naissant. Donc nous scrutons la météo à chaque instant pour pouvoir à tout moment repartir sur le terrain comme on l'a fait hier soir.
Vous êtes inquiet, monsieur le maire ?
Ben, je suis inquiet parce que les 48 heures qui s'annoncent sont vraiment cruciales, je n'ai pas beaucoup dormi. Voilà, les 48 heures qui s'annoncent sont cruciales. Et vraiment, on espère vraiment que le vent va s'amenuire pour que nous puissions enfin retrouver un semblant de sérénité dans la gestion des personnes sinistrées et des personnes évacuées.
On l'a dit, 7000 personnes évacuées hein, sur tout cet arrière-pays de Saint-Tropez. Vous lancez un appel à la population, aux vacanciers aussi qui sont nombreux sur place?
Alors oui, le premier appel que je lance, mais vraiment, et c'est d'ailleurs le sens que j'ai des mots que j'ai prononcés dans cette vidéo, c'est deux appels majeurs. Un, éviter la propagation de nouvelles, de fake news sur les réseaux sociaux. Donc, il faut raison garder parce qu'il faut éviter à tout prix que des services de secours soient envoyés à des endroits où il n'y a rien. On ne peut pas se permettre une dissipation des services de secours de manière inutile. Donc, la première, c'est se fier uniquement aux informations des comptes officiels des services de secours. Le deuxième élément, c'est évidemment de respecter les consignes, c'est-à-dire de rester chez soi, de ne pas réintégrer son domicile, même si on a été évacué. Je sais que c'est difficile. Mais les voies d'accès sont absolument capitales. Chaque seconde compte pour pouvoir secourir et défendre le territoire contre l'incendie et on a besoin de voies dégagées.
Vous n'avez, vous le disiez, pas fermé l'œil bien sûr de la nuit. Les prochaines heures sont sans doute très longues. On vous sent éprouvé.
Oui.
C'est dur?
C'est dur parce que quand on est un amoureux de son territoire, comme le sont tous les habitants de sa commune, et qu'on voit des territoires magnifiques du golfe de Saint-Tropez brûlés par les flammes, c'est très émouvant. Et voilà, on s'en remet difficilement, surtout quand on pense au traumatisme de gens qui ont accumulé par leur travail une petite construction qui est partie en flammes en deux secondes. On mesure la peine et la détresse de ces gens-là.
Merci beaucoup Stéphane Gady, maire de La Mole, merci d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Et on pense bien à vous, bon courage à vous, aux équipes de secours mobilisées, à tous ces sinistrés aussi. Cette région, oui, on l'aime. Plus de 900 sapeurs-pompiers, je vous le rappelle, et une centaine de gendarmes sont mobilisés. Et à l'instant, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron, qui est dans la région, tout près à Bormes-les-Mimosas, se rendra sur place cet après-midi sur les lieux de l'incendie.
RTL Midi.
Dans le reste de l'actualité, cette macabre découverte en Charente-Maritime, le corps de la fillette disparue vendredi sur une plage à Meschers-sur-Gironde a été retrouvé hier soir. Pauline, 11 ans, se baignait avec ses camarades de colonie de vacances lorsqu'elle a été emportée par le courant. L'Association régionale des œuvres éducatives de l'éducation nationale qui organisait ce séjour évoque un accident terrible et elle l'assure. Toutes les normes de sécurité ont bien été respectées. Et puis en Seine-Saint-Denis, les deux policiers de la BAC interpellés hier à Stein, eux, sont toujours en garde à vue. Ils sont accusés d'avoir grièvement blessé par balle deux personnes qui refusaient visiblement de se faire contrôler à bord de leur véhicule. 12h42 sur RTL, on en vient bien sûr à la situation en Afghanistan. Et ça y est, les derniers ressortissants français encore présents sur place ont commencé à être évacués. Une première rotation a eu lieu cette nuit, c'est ce qu'a confirmé tout à l'heure sur RTL. Florence Parly, la ministre des Armées.
Pendant la nuit, les vols ont pu reprendre. C'est ce qui nous a permis de faire atterrir notre premier avion de transport militaire. Et cet avion a pu repartir vers Abu Dhabi et est arrivé en fin de nuit. Nous avons posé les bases d'un pont aérien entre Kaboul et les Émirats Arabes Unis. Et ce pont aérien va nous permettre de multiplier les rotations dans les heures et les jours qui viennent.
Florence Parly, le ministre des Armées, qui était l'invité ce matin de Jérôme Florin sur RTL. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Ces opérations d'évacuation donc se poursuivent et 45 personnes sont attendues dès cet après-midi à l'aéroport de Roissy.
Absolument, en provenance d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis dans un Airbus A310 de l'armée de l'air. Arrivée prévue milieu d'après-midi, 16h, Roissy-Charles de Gaulle. Sont donc les premières personnes évacuées de Kaboul dans la nuit qui vont arriver sur le sol français. Dans ce groupe, il y a des Français, bien sûr, et également, selon les autorités, des ressortissants de pays partenaires de la France, mais pas plus de détails sur les nationalités. Les rotations vont se poursuivre. Une autre évacuation entre Kaboul et les Émirats est prévue en fin de journée. Dans ce contexte incertain, les forces spéciales, les militaires d'élite dont a parlé le président de la République hier dans son allocution, accompagnent ces vols pour sécuriser, assurer embarquement et débarquement. Car dans une Kaboul désormais aux mains des talibans, il faut prendre toutes les précautions car le contexte afghan reste incertain et potentiellement explosif.
Merci beaucoup Brice. Brice Dugénie du service étranger de RTL. Et on aura l'occasion d'en reparler ce soir avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, puisqu'il sera l'invité d'RTL. Rendez-vous à 18h15.
Ministre des Affaires étrangères.
Pardon, ministre Affaires étrangères, oui.
Il était ministre de la Défense, il est désormais ministre de la Défense. Absolument.
18h15, donc avec Vincent Parisot. Merci Brice, une toute petite pause sur RTL. Dans un instant, on va parler rentrée scolaire et attention, elle va vous coûter plus cher.
RTL Midi, le 12-30, avec Amandine Bégaud.
Et la rentrée scolaire, ça approche dans un peu plus de deux semaines maintenant, le 2 septembre. Il est grand temps de commencer à penser, si ce n'est pas encore le cas, aux achats de fournitures scolaires. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'est versée à l'ARS l'allocation de rentrée entre 370 et 404 euros selon l'âge des enfants, et ce pour quelques 3 millions de familles modestes. Bonjour Johan Joussaume.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle éducation à la Confédération syndicale des familles. Merci d'être avec nous sur RTL. Est-ce que c'est suffisant, 370 euros pour la rentrée d'un enfant en CP par exemple ?
Alors, en fonction des tranches d'âge, effectivement, ça peut être suffisant ou non. Nous, on estime que au cours préparatoire, donc au CP et au CM, c'est plutôt suffisant, puisque l'allocation de rentrée scolaire prend en compte la rentrée et le coût tout au long de l'année sur la scolarité. En général, puisqu'il y a des inégalités selon les territoires. Au collège, c'est tout juste suffisant et il faudrait la rehausser. Et au lycée, ça devient largement insuffisant, sans parler des filières professionnelles qui, en moyenne, coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. On pourrait penser voilà aux filières autour du bois, du métal, la coiffure, la cuisine, qui où les listes de matériaux spécifiques sont très onéreuses. Donc l'allocation de rentrée scolaire, on pourrait dire bonne note entre 6 et 10 ans, et à partir de 10 ans, plutôt mauvaise note.
Cette année, il n'y a pas de coup de pouce pour les masques, comme ça avait été le cas l'an dernier. C'est regrettable à vos yeux ?
Alors globalement, il n'y a pas de prise en compte du contexte actuel lié au Covid, puisque il y a eu toute une année scolaire qui a été relativement, sinon très difficile pour les familles, avec des impacts budgétaires qui ont été considérables, des pertes d'emplois, du chômage partiel, des factures de gaz, d'électricité qui ont augmenté. Tout ça, ça a impacté le budget des familles. Elles se retrouvent là à la rentrée à devoir payer des fournitures, etc. Et elles se retrouvent un peu dans la panade et pas de considération de l'État sur cette allocation, pas de coup de pouce, pas non plus de meilleure prise en charge du numérique, voilà. Donc pas finalement de réflexion et effectivement c'est regrettable.
Toute dernière question, Johan Joussaume. On est tous parents ou on connaît tous des parents et on s'est tous déjà agacés devant la liste des fournitures trop longue, trop compliquée. Est-ce que vous diriez que certains enseignants abusent un peu ?
Ben, on constate qu'effectivement il y a des listes trop longues. Alors abuser, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment une nécessaire coordination entre enseignants et parents qui nous semble nécessaire. À ce titre, par exemple, les initiatives d'achat groupé permettent d'avoir des listes moins grandes et des coûts bien plus avantageux. On les recommande. On invite aussi alors les enseignants à être juste dans et on va dire équilibrés dans leur liste de rentrée qui parfois sont importantes. Donc on invite vraiment à une coordination entre acteurs pour qu'aussi les listes ne soient pas réduites à peau de chagrin, pour que les matières soient finalement assez mal suivies. Il faut du canson pour l'art plastique, il faut un certain nombre de choses par matière, mais il faut trouver un équilibre entre une qualité éducative et pédagogique d'un côté et un coût qui ne soit pas trop exorbitant de l'autre.
Merci beaucoup Johan Joussaume d'avoir été en direct avec nous de la Confédération syndicale des familles qui chiffre donc la hausse du coût de cette rentrée de la scolarité plus 0,75%. Vous en avez, j'en suis sûre, déjà reçu ce genre de coup de téléphone pour changer de fournisseur de gaz ou d'électricité. Eh bien, le médiateur de l'énergie appelle les entreprises à calmer le jeu, appel insistant, discours mensonger ou même visite à domicile, les abus se multiplient. Voici quelques conseils du bon sens, finalement, pour éviter de vous faire avoir.
Bien évidemment, lors d'un démarchage à domicile, ne jamais signer quelque chose qui est un bon passage, parce qu'en général, ce sont des contrats. Et par téléphone, ils vont vous demander de donner un RIB. Si vous ne voulez pas conclure de contrat avec ce fournisseur, ne donnez pas ces informations. Et puis, on change quand on a envie de changer, pas parce que un démarcheur vous pousse à le faire.
Caroline Keller, du service information du médiateur national de l'énergie, des propos recueillis pour RTL par Pierre Herpulot. Pierre, que l'on retrouve en studio, bonjour.
Bonjour.
Ces conseils, ça vaut, on l'a bien compris, avant la signature. Qu'est-ce qu'on fait si on a dit oui? Quels sont les recours?
Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il existe un délai de rétractation. Les démarcheurs sont extrêmement persuasifs, c'est leur métier. Il arrive qu'on dise oui, qu'on signe pour être tranquille, puis qu'on regrette le lendemain matin. Pas de panique, il reste 14 jours pour changer d'avis. Sauf que parfois, les démarcheurs font sauter cette clause. Souvent, quand ils vous disent « signez ici et ici », vous voyez le genre. Eh bien là encore, tout n'est pas perdu, heureusement. Il existe, contrairement à la téléphonie, il n'y a pas d'engagement en fait dans le domaine de l'énergie. Il suffit de souscrire à un contrat chez un autre fournisseur pour annuler celui qu'on vous a forcé à signer.
Et alors, pour éviter d'être appelé tout le temps, il y a un moyen ou pas, Pierre?
Alors oui, il existe un site du gouvernement, Bloctel. Il suffit de s'inscrire, d'entrer son numéro pour passer en quelque sorte sur la liste noire des démarcheurs. C'est gratuit, ça prend 5 minutes, je l'ai fait juste avant de venir en studio. Et c'est censé bloquer, ou en tout cas limiter en grande partie, le démarchage téléphonique.
Eh bien, je vous propose de vous donner rendez-vous dans une semaine pour voir justement si ça fonctionne, ce Bloctel, parce qu'on sait qu'il y a eu souvent des couacs. Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
Pierre Herbulot du service économie de RTL. Si d'ailleurs vous voulez témoigner, nous raconter vos mésaventures autour de ce démarchage téléphonique, n'hésitez pas. 3210, vous le savez, vous avez la parole juste après 13h. Un mot de sport avec du foot d'abord. Il y aura peut-être 3 clubs français cette année en Ligue des Champions. L'AS Monaco affronte ce soir le Shakhtar Donetsk en match aller des barrages. Coup d'envoi à 21h. Et puis en cyclisme, un retour, c'est celui de Thibaut Pinot. Le français sera aujourd'hui la principale attraction du 54e Tour du Limousin qui s'élance aujourd'hui. Après 4 mois d'arrêt, il prévient toutefois, il ne faut pas compter sur lui pour gagner le prochain Tour de France, Baptiste Durieux.
Mais pour l'instant, c'est un coureur tout neuf qui s'élancera aujourd'hui. 4 étapes, 709 km pour se refaire la cerise. Beaucoup d'enthousiasme évidemment chez Yvon Madiot, directeur sportif de la Groupama FDJ.
Une forme de joie, de bonheur, le bonheur de le retrouver. Je sais que lui aussi le dit d'ailleurs, qu'il est très heureux de retrouver le groupe, de retrouver l'équipe, monter dans le bus, s'habiller en coureur, faire un briefing, ce bonheur de se retrouver dans des conditions de course, quoi.
Et un objectif pour Thibaut Pinot, un seul, prendre du plaisir.
On n'a même pas trop parlé de sport. Il n'y a pas d'objectif sportif. On a discuté hier soir en lui disant, voilà, prends ton temps, regarde, retrouve ta place dans le peloton. Puis après, on a conclu en rigolant tous les deux, en se disant que, oui, bon, de toute façon, le naturel reprendra le dessus. Puis il a dit, oui, de toute façon, t'inquiète, si je vais bien, tu vas me revoir à l'attaque.
En revanche, je vous le disais, Almandine, on ne le reverra peut-être pas à l'attaque lors des prochains Tours de France. Dans un entretien à l'équipe ce matin, Thibaut Pinot explique que sa chance est passée et que d'ici la fin de sa carrière, il est très peu probable qu'elle se représente.
En même temps, il a encore un petit peu le temps de voir avant le prochain Tour de France.
Bien sûr.
Merci beaucoup Baptiste Durieux du service des sports. On marque une toute petite pause. Et dans un instant sur RTL, on vous emmène sur l'île d'Aix, au large de La Rochelle, sur les pas de l'empereur. A tout de suite.
Dans les pas de l'empereur.
Samuel Goldschmidt sur RTL.
Cette année 2021, vous le savez, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et chaque mardi, tout l'été, sur RTL, on vous propose une excursion dans les hauts lieux de cette épopée, une incursion dans le passé. 7e étape aujourd'hui, au large donc de La Rochelle, sur l'île d'Aix, et c'est signé Samuel Goldschmidt.
Encore une île, une avant-dernière île pour sceller son destin. Il y a 3 semaines, il était empereur sur son dernier champ de bataille. Aujourd'hui, il fuit. C'est par la côte atlantique, au large de La Rochelle.
La plage est belle et minuscule. Les algues traînent et puis se versent. Quand la mer s'essouffle et recule sur l'île d'Aix.
David Chantrane est historien de ses journées d'Aix.
L'île d'Aix, c'est le dernier séjour effectivement français de Napoléon. Il se retrouve encore une fois, lui qui était né sur une île, qui s'était couronné sur une île, l'île de la Cité, qui avait fait la paix sur une île provisoire à Tilsit avec l'œil russe, qui avait combattu à Wagram face aux troupes autrichiennes à l'île d'Obo, qui avait connu un premier exil à l'île d'Elbe et qui allait connaître un second à Sainte-Hélène. Eh bien, ça se passe encore sur une île. Il se bat contre des insulaires, les Anglais. Il a épousé lui-même une insulaire, Joséphine. Donc bref, les îles, ça lui est attaché. Et sur cette île d'Aix, eh bien, tout va se dérouler. Napoléon choisit de se rendre aux Anglais. Il va être maintenant fait prisonnier et il va rester à Sainte-Hélène pendant 5 ans et demi.
Il connaît bien cette côte qu'il a fait fortifier entièrement. Le chantier de son fort Boyard commence à être visible à 3 km du fort de la Rade d'Aix, lui-même amélioré sous l'Empire. Pierre-Antoine Bergnard, aixois de longue date, en a retracé l'histoire.
Les instructions de Napoléon en 1808 étaient de construire des défenses susceptibles d'accueillir 4000 hommes qui pourraient repousser 12 000 Anglais. Et ce chiffre de 4 000 a été amplifié pour obtenir un effectif de 10 000. Je ne suis pas sûr que cet effectif ait été atteint, mais il a été demandé.
Aujourd'hui, le BAC manœuvre avec précaution entre la pointe de la fumée et les parcs à huîtres pour transporter Iliens et touristes sur ce cuirassé immobile devenu paradis. Le maire Patrick Deneau goûte cette paix.
C'est infernal le bruit qui règne à Aix, là.
Bah oui, vous entendez les oiseaux, il n'y a pas de voiture, c'est une île sans voiture, quelques voitures, mais vraiment très très peu.
Franck Chabot fait partie d'une jeune équipe d'Iliens qui reprend le seul hôtel local, l'hôtel Napoléon évidemment. Il n'en est pas bien sûr, mais il espère que l'empereur s'est laissé happer par le charme d'Aix.
Au-delà du Napoléon et de tout ce que ça représente historiquement, c'est sûr que c'est un dépaysement assuré. C'est sûr qu'on perd complètement tout code avec la France, on est en Polynésie ici.
Même Napoléon a pu se laisser happer par l'île d'Aix, quoi.
On dirait, ouais, mais qui ? Et vous ? Est-ce que vous n'êtes pas appelé par l'île d'Aix ?
La Polynésie, la Bretagne, un peu de Corse, on retrouve tous ces paysages sur 130 hectares de douceur. Mais en cet été 1815, Napoléon a d'autres préoccupations.
Ces 7 journées qu'il a passées à l'île d'Aix ont été des moments très très difficiles. Il a énormément de correspondances qu'il échange. Il apprend d'ailleurs par son frère Joseph, qui vient le rejoindre sur l'île d'Aix, que Paris est tombé aux mains encore des Bourbons, que les troupes coalisées maintiennent le pays en occupation et qu'il n'a plus aucun espoir, si ce n'est soit de partir aux États-Unis, comme on le dit, soit de se rendre aux Anglais, et c'est ce qu'il va faire, parce qu'il se refuse catégoriquement de prendre la dernière option qui était la sienne, qui pouvait être une guerre civile. Ça, il s'y refuse et il choisit vraiment de vivre un exil complet. Mais cet exil qu'il croyait être anglais, il sera hellénien dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Les Anglais sont à l'ancre tout près. Il les aperçoit d'ailleurs depuis ce qui est devenu le musée Napoléon.
Le bateau anglais, c'est-à-dire le Bellerophon et 2 autres vaisseaux, bloquaient le Pertuis. Et de la chambre qu'il occupait dans la maison, qui est la maison du commandant de la place, en fait, du premier étage, il pouvait scruter la rade des Basques sur laquelle évoluaient les navires anglais en question.
Le 15 juillet à l'aube, il n'y a plus d'autre solution. Napoléon s'en remet aux Anglais. Il quitte l'île d'Aix, monte à bord du Bellérophon. Il ne verra plus la France de son vivant, car si sur la terre ferme, l'empereur a soumis l'Europe entière, sur les océans du monde, c'est l'Angleterre qui règne sans partage.
Sur les pas de l'empereur, chronique signée Samuel Goldschmidt. Cet épisode, comme les précédents d'ailleurs, sont à retrouver bien sûr sur l'application RTL. Bientôt 13h, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Vous avez la parole, à tout de suite.